est 17h à Niamey et partout au Niger. Bienvenue au journal en français du studio Kalangou. À la présentation, je suis Rafika Taher. À la une ce soir, le studio Kalangou organise ce jour et demain une rencontre avec ses 52 médias partenaires à Niamey. L'objectif est de faire le point sur le cadre du partenariat en vue de son amélioration. La ville d'Arlit connaît une forte migration interne selon le maire. Ceci a malheureusement des conséquences sur la commune. À suivre le maire dans un instant. La partie magazine de cette édition va porter sur la cohabitation entre les déplacés internes du département de Téra et la population autochtone. Bonsoir à tous. L'équipe nationale de football du Niger, le MENA U23, s'est qualifiée hier soir au Soudan avec les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Elle a battu en match retour l'équipe du Soudan, les Crocodiles du Nil, sur le score de 2-1. Une grande première pour les U23 du Niger, ce qui réjouit les Nigériens. Écoutons quelques-uns au micro de Salamato Kadri.
Les impressions sont des impressions de joie, comme vous le remarquez. Nous sommes allés avec un handicap. Un match allé le 22 mars dernier, on a concédé un score de 0 but partout aux Soudanais. Donc c'était ça l'handicap. On aurait pu les battre ici. Comme on dit l'adage, impossible n'est pas nigérien. Nous étions fermement, et on l'a fait hier, 2-1, synonyme de la qualification pour une première fois de l'histoire de la CAN U23. On sera au Maroc, Inch'Allah.
J'exprime ici un grand motif de satisfaction par le fait que nos jeunes représentants ont su se battre face à des équipes qu'on croyait imprenables. Ils nous ont agréablement surpris parce que lors des représentations au pays, ils n'ont pas convaincu. Mais une fois sortis, ils ont montré que impossible n'est pas nigérien. Bravo aux jeunes.
Comme je le disais tantôt, le studio Kalangou organise aujourd'hui et demain à Niamey la réunion de coordination avec les responsables des médias partenaires. Une rencontre d'échange entre le staff du studio Kalangou et les responsables des médias partenaires pour évaluer le partenariat en vue d'améliorer la collaboration. Moussa Hassan, secrétaire général de la coordination nationale des radios communautaires du Niger, apprécie au micro de Moussa Hassan.
Dans le cadre du partenariat, les gens ont mené des activités ensemble. Ils ont constaté qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, où est-ce qu'ils ont des difficultés, et ils vont faire des bonnes propositions pour aller de l'avant. Donc, nous avons trouvé ce partenariat vraiment très fructueux, d'abord pour les médias, en ce sens que des informations de qualité, des émissions de qualité qui sont produites et diffusées à l'endroit de nos populations rurales, mais à travers les radios communautaires. Comment est-ce qu'on veut que nous aussi, nos capacités puissent être renforcées pour que dans l'avenir, même quand Studio Kalangou n'est plus, que nous aussi on puisse produire ces mêmes genres de qualité d'émission et d'information. Mais en termes aussi de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aussi pour qu'on puisse renforcer les capacités de nos personnels pour qu'eux aussi au niveau local puissent produire aussi des émissions de qualité et des informations et les diffuser.
Le journalisme est considéré comme le quatrième pouvoir, mais l'exercice des acteurs des médias n'est pas souvent compris. Le journaliste a non seulement une responsabilité, mais aussi des droits et devoirs. Il doit aussi connaître les éléments basiques de son métier. C'est ce qu'explique le président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias et la déontologie ONIMED. Maman Jaharou, au micro de Fatima Lamiyarou.
Le journaliste n'est pas totalement compris dans son travail. Tantôt, et il y a une certaine opinion politique et même sociale qui pense que le journaliste doit avoir un camp. Lorsqu'on ne le sent pas dans un camp, il est en faveur d'un tel. Lorsqu'on estime son travail agréé un camp, l'autre camp l'accuse d'être en complicité. Alors, dans ce cadre de ce travail-là, ce qui peut aider le journaliste, c'est la maîtrise de béaba du journalisme, c'est le professionnalisme. Lorsque vous faites votre travail, entourez-vous de toutes les garanties que vous offre le texte régissant le métier du journalisme.
En bref, le bureau sortant du Conseil supérieur de la communication CSC, conduit par son président Dr Sani Kabir, a rencontré hier le président de la République Mohamed Bazoum. Dr Sani Kabir a déclaré qu'ils ont fait part au président des contenus de chaque rapport, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Il a poursuivi en indiquant que la nouvelle équipe entrante du Conseil supérieur de la communication doit continuer la production législative dont certains textes sont en souffrance depuis 3 ans. Par exemple, le projet de loi sur la presse électronique et le texte régissant la publicité audiovisuelle. La migration interne est aujourd'hui un poids pour la commune d'Arlit, selon les responsables de la municipalité. La ville d'Arlit enregistre quotidiennement un nombre important de Nigériens, surtout des femmes et des enfants en partance ou refoulés d'Algérie, a expliqué Abdrahman Maouli, maire de la commune d'Arlit. Il est au micro de Moussa Maman.
Donc cette migration qu'on appelle la migration interne, elle pèse de tout son poids, en tout cas sur la gestion que nous faisons aujourd'hui, du flux migratoire de façon générale. C'est des Nigériens, souvent avec des enfants, des femmes, qui se retrouvent dans une situation irrégulière en Algérie et qui se voient déjà refoulés. On est obligé de les accueillir et de faire en sorte de les acheminer dans leur terroir d'attache. Donc c'est encore un coup. Donc vous voyez, en plus de celle-là, plus l'autre migration que nous connaissons, qui est un peu transfrontalière, Arlit prend un coup sérieux, parce que même du point de vue souvent sécuritaire, en zone urbaine, on a du mal à s'en sortir parce que la population est tellement dense et il y a trop de petits vols qui s'organisent. Mais nous, ce que nous ressentons beaucoup, c'est sur le plan environnemental, sur le plan assainissement. C'est là où nous prenons beaucoup de coups. On est en train d'investir, mais c'est comme si, en tout cas, on ne fait rien, tout simplement parce que ça dépasse nos capacités.
À Dosso, cette fois-ci, l'Association nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants tient un atelier de renforcement des capacités des bureaux régionaux sur la traite des personnes, le trafic illicite des migrants et la protection des victimes de traite. Mahamoun Ousmane, directeur général, estime qu'avec cette formation, une partie du combat est déjà gagnée. Il est au micro de Aoussi Abdrahman.
La question du trafic illicite des migrants, c'est une question qui est en tout cas très préoccupante à l'échelle nationale. Il y a beaucoup de migrants en tout cas qui traversent notre frontière pour aller dans les pays du Maghreb et continuer en Europe. Donc nous sommes une structure qui fait de la prévention. Nous faisons le renforcement des capacités des acteurs, nous créons des conditions, des partenariats entre les différents acteurs. Donc à travers le bureau régional, ce sont des ambassadeurs que nous formons qui vont aller au niveau des régions, qui vont fédérer les différents acteurs de lutte contre la traite des personnes au niveau des régions et aussi protéger les différentes victimes qu'on peut rencontrer sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un élément très important pour nous. Quand les bureaux régionaux sont bien formés, qu'ils connaissent les questions de traite et de trafic issus des migrants, on pense qu'une partie en tout cas du combat est déjà gagnée.
La femme enceinte ou allaitante est temporairement exemptée du jeûne de Ramadan pour son bien et celui de son enfant. Elle doit rembourser le mois du jeûne en nourrissant 60 personnes avec intention. Oustaz Mustapha Ahamadou, membre du Conseil islamique du Niger et prédicateur, donne plus de précisions. On l'écoute au micro du studio Kalongo.
La femme enceinte ou allaitante, elle peut travailler avec l'enfant d'abord. Elle se mesure. Si elle peut, elle peut prendre. Si elle sent qu'elle ne peut pas, le mieux c'était de donner les manger d'un mois. D'autres versions disent de faire manger 60 personnes. Avec l'intention que Allah, je n'ai pas pu gêner comme il le faut, comme il se doit, comme il est imposé sur moi, les gens du mois de Ramadan, en compensation, Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu m'as ordonné de faire, j'enlève cette mesure d'aliments au profit donc des pauvres, tel que tu m'as indiqué. Ya Rabbi l'alim. Et ça couvre. Vraiment, c'est comme si tu as gêné avec tout le monde. Ça lui donne la valeur qu'un jeune a fait de 30 jours.
Un comité de dialogue inter- et intra-religieux appelé CEDIR a été installé à Gaya en début de semaine. Ce comité vise à renforcer la coexistence entre les religions et mutualiser les efforts pour soutenir les populations les plus démunies. Cheikh Amadou Noyon-Windi, président du comité, donne des précisions au micro de Fadel Allo.
Akamata.
Nous devons échanger entre nous pour pouvoir solutionner les mésententes entre les gens au sein de la communauté. C'est-à-dire s'il y a un conflit entre deux musulmans, nos trois structures ont l'obligation de se concerter afin de ramener les personnes antagonistes à la raison. Le deuxième point, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, comme une inondation par exemple, le CEDIR doit dans ces circonstances appuyer les victimes en fonction de ses moyens. Et le troisième point, si dans ton quartier, les eaux de ruissellement, par exemple, font des dégâts, en tant que riverain du quartier, tu peux prévenir les autorités pour le constat et les éventuelles réparations qui peuvent s'étendre au-delà de ton quartier.
Pour sensibiliser la population sur les droits à la santé de la reproduction des personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec le VIH-Sida et déplacées internes, une ONG dénommée Lafia Matassa a organisé une formation de 2 jours à 4 relais communautaires, 6 animateurs et journalistes de Balayara. Fatih Adamou est parmi les participantes. Elle explique ce qu'ils ont appris au micro de Seyni Abdou Indital.
Nous avons reçu une sensibilisation sur le droit des femmes.
précisément celles qui vivent avec un handicap, le VIH-Sida, ou celles qui se sont déplacées vers chez nous à cause de l'insécurité. Nous sommes édifiés sur leur accès aux soins. Les femmes ont des droits sur l'accès aux services sanitaires. Elles ont aussi des voies à suivre pour bénéficier de leurs droits sur ce point, car nous avons remarqué que beaucoup de femmes ne partent pas aux consultations prénatales. D'autres ont même peur de le faire, ou elles sont souvent renfermées sur elles-mêmes, surtout une fois à l'hôpital, pour une grossesse, un espacement de naissance. Et tout cela, nous l'avons su grâce à cette sensibilisation. Nous avons donc décidé de faire des émissions, partager l'information pour qu'elle puisse être entendue partout ou atteigne les ondes de la radio.
Plus de 25 chefs de tribu des villages qui entourent le chef-lieu de la commune de Danette, population, organisation des jeunes et groupement des femmes, ont participé à cette rencontre de sensibilisation sur l'exploitation de l'uranium et son impact sur l'environnement. La rencontre est organisée par le collectif de la société civile Koskraz d'Agadez. Les populations s'expriment au micro d'Anis Ekarim.
Nous sommes contents de l'arrivée de la société civile ici. Et la plupart de ce qu'ils nous ont expliqué, nous en avions déjà connaissance parce que nous étions là depuis l'implantation de la Somaïr. Quand même, nous les remercions pour ces séances de sensibilisation, car cela nous permettra de connaître les dispositions à prendre face à cette situation. Surtout dans la commune de Danette, c'est difficile pour nous. Nous ne pouvons ni planter des arbres, ni faire de l'élevage. Et nous-mêmes sommes exposés à différentes maladies. Donc nous saluons l'arrivée de la société civile et nous ne cesserons de dénoncer problème.
Vraiment, nous avons compris maintenant. Nous avons compris que nous devons nous mobiliser car les choses ne sont pas claires. Ils nous ont parlé de toutes les maladies que l'homme peut contracter suite à cette exploitation. C'est notre vie qui est en danger car nous pouvons toutefois être touchés par des maladies et que jusqu'à présent, aucune mesure n'est prise pour nous protéger.
Plusieurs personnes ont quitté leur village pour venir s'installer dans la ville de Téra à cause de l'insécurité qui sévit dans certaines parties du département. Grâce à l'assistance des services de protection, ces personnes déplacées arrivent à trouver des familles d'accueil selon le directeur départemental de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Bourema Abdelkarim estime que la cohabitation entre autochtones et déplacés est quasiment très bien. Il est au micro de Moussa Kanda en magazine.
Monsieur Bourem Abdelkarim, comment est-ce que les autochtones de Téra cohabitent avec les réfugiés?
Au niveau des différentes communes de la ville de Téra, il a été mis en place des comités de plaintes. En fonction de nos échanges avec ces comités de plaintes, vraiment, la cohabitation, on peut dire qu'elle est bien, elle est parfaite, parce que c'est une socialisation. Lors de certains forums ou bien de certaines occasions qui se présentent, on fait la sensibilisation pour vraiment amener les populations à accepter ces personnes-là. Donc, les gens doivent s'armer de patience pour pouvoir recevoir ces gens-là pour les intégrer. Et pour le moment, vraiment, il n'y a pas de problème particulier qui nous a été signalé par rapport à la cohabitation. Les ONG partenaires qui sont à Téra arrivent à leur faire des distributions comme le cash, et des vivres, et des kits alimentaires. Ce qui fait qu'on peut dire que pour le moment, le problème ne se pose pas. La cohabitation, on peut dire qu'elle est parfaite.
Quelles sont les difficultés auxquelles ils font face?
La particularité de la ville de Téra, c'est que les déplacés qui sont venus jusqu'à présent, ils n'ont pas de site. Donc la cohabitation entre ces déplacés et la population, c'est toujours au niveau des familles d'accueil, comme nous les appelons. Et ce qui fait que nous, ça nous pose énormément de problèmes parce que nous avons du mal à les outiller pour pouvoir les regrouper, pour faire nos interventions. Parce qu'elles sont toutes dans des familles d'accueil, chez des personnes qu'elles connaissent avec lesquelles elles ont des liens de parenté. C'est récemment qu'avec la mairie, nous avons trouvé 3 sites sur lesquels nous comptons les installer. Mais il faut aussi viabiliser les sites parce qu'il faut au moins de l'eau, des structures sanitaires, des abris pour pouvoir les loger. Puisque c'est les déplacés de Gourol, de Bankilaré, de Kokorou, de Diagoud qui viennent, ils ont pratiquement tous des parents qui sont au niveau des terrains chez qui elles sont installées, elles sont logées.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à Tarnan Foudé Ahmed pour la présentation du journal en tamashek. À 18h15, Nafissa Adamou et ses invités vous apporteront des éclaircissements sur l'importance des cotisations sociales des fonctionnaires. Et c'est dans le forum en français du jour.